Sud Radio, Berkoff dans tous ses états, midi 13h, André Berkoff.
Alors, si vous votez bien, eh bien vous aurez des juges. Oui, la carte judiciaire serait fonction du fait que vous déposiez le bon bulletin dans l'urne des prochaines municipales. Ah bon, vous croyez ? On va parler de tout ça. On va parler effectivement du transgenre et surtout, restez avec nous, un document exceptionnel sur l'aide médicale d'État, une enquête extraordinaire, une enquête choc. On en parle en seconde partie d'émission. Accrochez-vous et soyez comme moi dans tous vos états.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Eh bien, chers auditeurs de Sud Radio, chers auditeurs de Berkoff dans tous ses états, votez bien. Je ne dirai pas pour qui, mais en mars, votez bien. Parce que si vous voulez une structure judiciaire chez vous, eh bien, il paraît qu'il faut bien voter. Ça veut dire quoi ? Eh bien, on en parle.
Berkoff dans tous ses états, le fait du jour.
Monsieur le juge, je vous demande de me pardonner. L'homme de raison, j'aurais dû m'arrêter.
Oui, monsieur le juge, oui, on demande de pardonner, c'est bien les amendes, il est allé trop vite, c'est Alain Comeau. Mais encore faut-il qu'il y ait du monsieur le juge. Et quelque chose s'est passé il y a 2 jours, évidemment toujours le Canard Enchaîné qui est quand même plutôt bien informé. Eh bien, et le Canard Enchaîné mercredi dernier a divulgué l'existence d'une note selon laquelle la chancellerie, le ministère de la Justice, envisagerait de maintenir ou de supprimer des postes de juges en fonction des résultats électoraux de La République En Marche. Ça paraît quand même énorme. Alors, la note dit, je résume rapidement, la note dit, voilà, le ministère de la Justice a sollicité, donc Nicole Belloubet, une réunion avec l'un des conseillers du Premier ministre et les experts des élections municipales de La République En Marche pour connaître les villes potentielles cibles électorales et ainsi différer les annonces de la réforme de la carte judiciaire. Alors évidemment, tollé, l'Union syndicale des magistrats qui est majoritaire, il dit mais qu'est-ce que c'est que cette mainmise du politique sur l'organisation de la justice ? Totalement inacceptable dans une démocratie digne de ce nom. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ? Vous voulez désigner les juges, etc., en fonction du vote des citoyens dans les prochaines municipales. Mercredi matin, dans le grand matin de Patrick Roger et Cécile de Ménibus, il recevait Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, et évidemment, on lui a posé la question, et voici ce qu'a dit Nicole Belloubet.
Lorsque nous avons à mettre en place une réforme, ce qui est le cas à la suite de la loi de réforme pour la justice, évidemment, elle doit être effectuée sur la base de critères objectif, ouais. En l'occurrence le nombre de dossiers, etc. Mais toute réforme doit être acceptée, elle doit faire l'objet d'une acceptabilité. Et dans ce cas-là, il est évident que nous nous appuyons également sur les élus pour expliquer, pour faire comprendre, c'est ce que veut dire simplement cela.
Alors justement, c'est ce que répondait donc Nicole Belloubet sur Sud Radio mercredi. Et 24 députés, les Républicains, ont écrit une lettre qui s'adresse au président de la République. Et ils disent dans cette lettre, il est donc de votre devoir, Emmanuel Macron, d'agir dans le cas d'espèce afin de mettre un terme à toute manipulation de l'organisation de la justice organisée par le pouvoir exécutif pour assouvir des objectifs électoralistes. À l'initiative de cette lettre, Julien Aubert, député LR que nous avons reçu. Bonjour Julien Aubert.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous une fois de plus à Berkoff dans tous ses états. Dites-moi, on ne comprend pas cette histoire. Comment est-ce que l'information du Canard Enchaîné vous paraît fondée, qu'on dit, écoutez, on va voir en fonction de telle ou telle cible électorale, on va revoir la carte judiciaire ?
Bon, il y a juste une petite ambiguïté dans la réponse de Mme Belloubet.
Oui.
Je veux dire que normalement, quand on prépare une réforme, l'administration est censée être neutre. Et donc, en fait, elle prépare une réforme, elle dit, voilà, on vous propose telle carte, ça remonte au ministre. Et là, évidemment, le cabinet qui, lui, est politique, ouais. Éventuellement, écarte telle ou telle fermeture en disant, là, on peut pas parce que on a le ministre de l'économie qui est implanté là. Là, on peut pas parce que, bon, ça se passe évidemment comme ça. Là, ce que le Canard Enchaîné nous révèle, c'est que l'administration elle-même, ouais. a en réalité proposé une réforme de la carte judiciaire en fonction d'objectifs politiques, pas le cabinet. On est là sur une politisation de l'administration et notamment de la direction des affaires judiciaires.
Mais Julien Aubert, juste pour faire bien, pour qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que c'est l'administration, évidemment, le ministère de la Justice qui décide de l'ouverture ou de la fermeture ou du transfert de tel ou tel tribunal, c'est ça?
Oui. Oui, c'est à eux de préparer une carte. Oui. Sauf que là, ce que révèle cet épisode du canard enchaîné, c'est que, bon, alors, Madame Belloubet, elle se retranche, évidemment, derrière un fonctionnement, parce qu'on peut bien imaginer qu'effectivement, quand on fait une réforme, on en voit les résultats politiques ou les conséquences politiques. Oui. On évalue les conséquences politiques. Oui. Mais là, en fait, c'est l'administration elle-même, politisée, qui propose elle-même au cabinet une forme de réforme de la justice à la carte en fonction des visées électorales du parti majoritaire. Ouais. Donc c'est une politisation en réalité de la justice, et comme par hasard, une politisation qui va toujours dans le même sens. C'est jamais, si vous voulez, pour éventuellement avantager la droite. Hein. C'est toujours, je dirais, la gauche qui est avantagée dans ce genre de processus.
Ce qui est assez peu constitutionnel, en général, non ?
Oui, c'est pour ça que moi j'ai proposé qu'on écrive au président de la République, puisqu'il est le garant de l'autorité judiciaire. Mmh. Il est le garant de cette neutralité judiciaire.
Bien sûr.
C'est lui qui préside le CSM, donc à un moment donné, on peut pas... ça veut dire quoi, en réalité ? Ça veut dire que quand vous avez le malheur de voter, moi je suis concerné parce que j'ai le tribunal de Carpentras, ça veut dire que comme les habitants de Carpentras votent trop à droite, ils ont un député Les Républicains, alors du coup on les punit, enfin je veux dire, ils devraient faire les frais, je dirais, de fermeture, quand bien même en nombre de dossiers, ça justifierait le maintien d'un juge d'instruction, ça veut dire ça ? Enfin, c'est scandaleux.
Oui, c'est pour le moins, en tout cas ça pose question. Je pense que le président de la République était à la Réunion, il n'a pas encore eu le temps de vous répondre.
Non, mais est-ce qu'il répondra, c'est la question. Ouais. Ils vont essayer de noyer évidemment le poisson.
Et selon que vous soyez de gauche ou de droite, les jugements de cour, on va paraphraser La Fontaine, hein, là, Julien Aubert.
Oui, mais enfin, c'est vraiment plutôt, parce que ce que ne dit pas le canard enchaîné, c'est que cette direction des affaires judiciaires, elle est dirigée par quelqu'un qui est très proche de M. Nadal, qui est lui-même, si vous voulez... sans doute l'un des magistrats les plus politisés de notre ordre et à gauche. Ouais. Donc, en fait, moi, si, au bout d'un moment, on a quand même un puzzle qui finit par énerver tous ceux qui ont foi dans l'administration judiciaire. Mmh. Entre le mur des cons, entre cette affaire, entre les calendriers des juges qui miraculeusement touchent
tel ou tel et pas l'autre, oui. Le parquet national financier et autres et autres et autres, enfin
bon. Oui, bon, ouais, enfin. Bon. Les relax de tous ceux qui sont proches d'Emmanuel Macron, et pas, par ailleurs, la grande dureté de ceux qui ont le malheur de ne pas être du bon côté. Enfin, je veux dire, on ne peut pas laisser faire comme ça une dérive.
Oui, ça pose problème, c'est sûr. Merci en tout cas, Julien Aubert, pour vos éclaircissements. On continuera évidemment à suivre cela d'ici mars.
Et je rappelle que Julien Aubert, vous êtes député Les Républicains de la 5e circonscription du Vaucluse et président d'Oser la France. Vous nous avez entendu, Berkoff, et dans tous ces états, vous nous appelez, tiens, au 0-826-300-300. Est-ce que vous faites conscience en l'impartialité de la justice, ou est-ce qu'au contraire, vous n'y faites pas confiance? Vous nous appelez, venez nous le dire, on est ensemble jusqu'à 13h, c'est vendredi sur Sud Radio.
Sud Radio, André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Mais elle a parfaitement le droit, Mylène Farmer, de dire que sans contrefaçon, elle est un garçon, et pourquoi pas. Mais quand ça arrive aux hallucinantes limites ou illimitées dont je vais vous parler, alors aux USA, je vais raconter une histoire absolument authentique, une femme a demandé à un tribunal d'imposer, je dis bien d'imposer un changement de sexe à son fils de 7 ans, c'est-à-dire chirurgie, traitement hormonal à vie, car selon elle, selon la mère, il aurait des goûts de fille. Donc le père refuse, procès, etc. Eh bien le juge a donné raison à la mère. C'est-à-dire que cet enfant de 7 ans va subir chirurgie, traitement hormonal à vie pour qu'il devienne une fille. Et la mère, elle est pédiatre. Alors elle dit, voilà, elle dit exactement ça. Elle dit, vous savez, mon fils en fait... je l'ai vu depuis le début, il adore s'habiller en fille, il est véritablement, il n'est pas bien dans son corps parce qu'il est en réalité une fille. Et Et le père a répondu. Le père a expliqué que, dans une interview, que si James, l'enfant, avait un désir de s'habiller en fille, c'est parce que sa mère a commencé à lui mettre des vêtements de fille et à lui à faire ses ongles, à mettre du vernis à ongles, quand il avait 3 ans, dès qu'il avait 3 ans, hein, le petit, là. Et il dit qu'il a utilisé énormément de méthodes de manipulation. Et par exemple, elle l'enfermait dans sa chambre en lui disant, tu sais, les monstres, eh ben les monstres, ils mangent les garçons. Hein, les monstres, ils ne mangent pas les filles. Et c'est hallucinant parce que, voilà, et le désir de mère, etc., eh bien voilà, aujourd'hui, c'est très simple, c'est la mère qui a le contrôle complet sur l'enfant, suite à la décision de justice. Eh bien voilà, il s'appelle maintenant, il a 7 ans, hein, je vous rappelle, il a 7 ans, il s'appelle Luna, et il est effectivement, il est habillé en fille, et il est en fille un peu partout, et d'ailleurs, elle va procéder, elle l'a dit la mère, écoutez-moi bien, elle va procéder à une castration chimique de l'enfant. Et voilà, et le père ne peut rien faire. Ça s'appelle aussi la justice, en tout cas aux États-Unis, dans certains coins des États-Unis. C'est une histoire qu'on ne pouvait pas ne pas raconter, parce qu'on se dit, est-ce que demain ce sera ça ici? Parce que la mère ou le père disant, oui, mais lui, il se sent, la fille se sent mieux en homme, l'homme se sent mieux en femme, et allez, ça s'appelle transgenre, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle du bon délire illimité.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Lanceur d'alerte.
Abba, évidemment, money. Eh oui, money. Et puis il y a un article assez incroyable, une information donnée par le magazine 60 millions de consommateurs et l'Union nationale des associations familiales, qui nous rappelle ce dicton qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade. Hein, banalité de base. Pourquoi ? Parce que le magazine et l'Union nationale accusent les banques de ne pas tenir certains engagements vis-à-vis des clients dits fragiles à suite d'un test avec une centaine de personnes. Ils vont effectuer dans plusieurs réseaux bancaires. Et vous savez, c'est après la conséquence des Gilets jaunes, après le mouvement des Gilets jaunes. Les banques s'étaient engagées en décembre 2018, sur demande du président de la République, à plafonner les frais d'incidents bancaires à 25 euros mensuels pour l'ensemble des clients fragiles. Vous savez très très bien, tous, chers auditeurs, et de Sud Radio, et dans tous vos états, que quand vous avez 50 milliards de dettes, comme je ne dirais pas qui, aucun problème avec les banques, 50 milliards de dettes, on vous tient, on vous aime, on vous... Mais quand vous avez, allez, un dépassement, allez, 1000 euros, 500 euros, c'est tout de suite
c'est
les
déjà beaucoup.
Hein,
c'est déjà beaucoup.
Beaucoup, ouais, 100 euros, 200 euros, ça joue, voilà. Et donc, ce plafonnement demandé par Emmanuel Macron, et demandé justement, et c'est très bien qu'il l'ait demandé, n'est pas mise en place pour l'immense majorité des clients noyés sous les frais pour incident. Voilà, ils ont demandé à des clients, voilà, c'est très très simple, 13 parmi les personnes qui ont été interrogées par la revue. 13 sont interdites bancaires, 23 surendettées, 68 perçoivent de 1 000 à 1 800 euros par mois et subissent des frais d'incident de plus de 40 euros mensuels depuis 3 mois. Alors, je comprends que les banques sévissent effectivement quand il y a des dépassements ou du négatif, mais il faut savoir jusqu'où on va et qui on frappe, comme d'habitude. Il y avait des engagements qui ont été pris, et alors les banques disent non, les engagements sont tenus. On a réinjecté 600 millions d'euros par an de pouvoir d'achat à titre du plafonnement des frais d'incident de paiement. Il n'empêche, c'est vrai, que quand on connaît la situation de millions de Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté, on pense franchement que les banques pourraient vraiment faire un effort. On le sait, ils le savent, elles le savent, et j'espère qu'ils le feront, mais en tout cas, c'est inadmissible d'accepter cet état où quelqu'un qui gagne moins de 1 000 euros par mois ou 1 000 euros par mois se fasse effectivement sanctionner de cette façon.
Bon, vous êtes peut-être à découvert alors que vous écoutez André Berkov sur Sud Radio. Vous avez peut-être un problème de découvert, vous payez des agios, des frais de suspension. Ben, venez nous le dire, tiens, 0 826 300 300. Dépêchez-vous, on est ensemble que jusqu'à 13h aujourd'hui sur Sud Radio. Puisque nous sommes vendredi, vous êtes peut-être aussi banquier. Pourquoi pas ? Venez, n'ayez pas peur. André Berkov est charmant. Vous verrez. À tout de suite sur Sud Radio.
radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états.
Alors, l'aide médicale d'État. Certains disent, c'est formidable, la France est le pays le plus humanitaire du monde, la France doit recevoir effectivement les gens qui ne sont pas en bonne santé, d'où qu'ils viennent, de quelque façon qu'ils viennent. Et les autres disent, et beaucoup disent aussi, attendez, ça coûte 1 milliard d'euros par an. À qui ça coûte 1 milliard d'euros? Eh bien, aux contribuables. Et est-ce qu'on doit, nous, financer tout cela? Et surtout, quand il y a le tourisme, quand il y a des magouilles, il faut le dire, et quand il y a un certain nombre de grandes ou de petites manœuvres.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
Et on en parle avec l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Véronique Prudhomme. Elle a été chargée pendant 11 ans de la facturation des soins à la direction financière d'un hôpital public. Et elle nous présente son livre « La vérité sur l'aide médicale d'État ». C'est publié aux éditions Via Sociale.
Alors Véronique Prudhomme, merci d'être avec nous. Vous avez un travail formidable, un travail d'enquête. Enfin, en plus, personne ne peut compter ce que vous faites. Ça fait 10 ans. Vous êtes encore...
Non, je ne suis plus en poste. Je suis restée...
Vous n'êtes plus en... Oui. Voilà.
Je suis restée 11 ans à la facturation d'un hôpital public. J'encadrais le personnel administratif et les services sociaux.
D'accord.
Voilà, donc on était au cœur du terrain, sur le terrain, à accueillir les patients sur la partie administrative.
Et donc, vous vous occupiez effectivement soit des remboursements, de voir comment, enfin, l'équilibre financier, etc.
Voilà. Absolument. En fait, on arrive en bout de chaîne, soit au tout début de la chaîne quand le patient arrive, soit en fin de chaîne quand il sort, si on arrive à voir le patient. Et on a à charge de s'assurer que l'on va avoir un paiement, quel qu'il soit, pour ce patient, une prise en charge, qu'elle soit au titre de l'AME, qu'elle soit au titre d'une prise en charge d'une ambassade, ou que le patient paye lui-même, s'agissant de patients qui sont non assurés sociaux.
Alors, c'est formidable parce que vous révélez, je dois dire que c'est vraiment un document exceptionnel que je recommande à tous nos auditeurs, cette vérité sur l'AME, parce que vous révélez la partie immergée de l'iceberg.
Oui.
On entend l'aide médicale d'État, tout ça, on dit voilà, qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, mais on n'a pas effectivement les détails. Et vous montrez toutes les situations. Et c'est ça qui est tout à fait passionnant. Je rappelle simplement que la création, vous le dites, que l'aide médicale d'État est née en 2000, c'est bien ça. Que, en fait, juste pas rapidement, en 2002, il y avait 147 320 bénéficiaires. En 2017, il y en a 315 000. Et que le montant de l'aide, enfin le montant financier, parce qu'il y a des opérations extrêmement chargées, enfin de chères, etc., se monte, c'est bien ça, à pratiquement 1 milliard d'euros.
Oui,
c'est bien ça.
On est à 934 millions d'euros actuellement. C'est une dépense non maîtrisée, puisque comme vous venez de le rappeler, c'est inflationniste depuis sa création. Alors il existait une autre aide médicale auparavant qui était départementale, enfin qui était gérée différemment. En tout cas, elle a été véritablement créée dans les années 2000, en 2000 exactement, et elle permet à des patients d'être soignés gratuitement sur le territoire français, à des patients qui sont irréguliers.
C'est ça. Ou illégaux, irréguliers,
etc. C'est-à-dire, alors on peut être irrégulier.
C'est ça l'aide médicale d'État.
Exactement.
C'est que ça va à tous les gens qui ne sont pas résidents en France, qui n'ont pas un travail en France, qui viennent momentanément ou pas. Mais on dit que c'est au bout de 6 mois, non, c'est pas
non,
ça.
Non, 3 mois.
3 mois.
3 mois de présence sur le territoire français.
C'est ça.
En étant irrégulier. Ce qui veut dire qu'on peut être irrégulier à partir de deux portes d'entrée. À la fois un visa touristique, où vous avez des patients qui viennent avec un visa touristique, en tout cas court séjour, 15 jours, une autorisation de présence sur le territoire français de courte durée, et qui restent ensuite sur le territoire pour y recevoir des soins. Alors, ils n'arrivent pas forcément avec l'intention de rester. Il s'avère qu'à un moment donné, ils ont un problème médical qui nécessite une prise en charge, qui peut être plus ou moins courte, plus ou moins longue, et de ce fait-là, ils restent, et on va leur ouvrir des droits à l'AME, parce qu'ils deviennent irréguliers sur le territoire français. Donc ça, c'est le premier point.
Vous dire, attendez, pour bien comprendre, pour que nos éditeurs et nous-mêmes comprennent bien, j'arrive, moi, mettons, avec un visa touristique, c'est ça, mais si je reste un peu plus, et que mon visa
expire,
je suis irrégulier, donc j'ai droit à l'AME.
Exactement. Une fois que vous avez 3 mois de présence, c'est-à-dire qu'il faut avoir ces 3 mois de présence, pas 3 mois d'irrégularité, 3 mois de présence sur le territoire, vous êtes devenu irrégulier, et suite à cela, vous avez la possibilité d'avoir une AME.
Et si j'ai des amis ou une famille qui m'hébergent, ben voilà, je reste 3 mois et tout va bien.
C'est ça, exact. Et c'est ce qui se passe. Très souvent, c'est ce qui se passe, puisque pour pouvoir avoir le visa d'entrée en France, très souvent, il faut justement avoir ce certificat d'hébergement Et ça, c'est un des points qu'on sera amené peut-être à développer dans les solutions. Il faut que l'hébergeant devienne solidaire des frais de santé éventuels d'une
personne hébergée.
Responsable, exactement.
C'est ça, ouais, ouais, absolument.
Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les personnes qui arrivent de façon illégale sur le territoire français, ce qu'on appelle vulgairement les sans-papiers.
Enfin, les clandestins, voilà, etc. Exactement. Oui.
Donc c'est vraiment ces deux cas de figure. Et on ne parle jamais de ces personnes qui arrivent avec un visa touristique et qui, intentionnellement ou non, restent sur le territoire.
Pour subir des opérations, pour accoucher, etc., etc. Vous en parlez d'ailleurs. Et d'ailleurs, vous avez dit, d'ailleurs, je pense que vous avez dit, j'aurais pu intituler ce livre Trucs et astuces pour se faire soigner gratis en France. C'est
absolument.
Ça.
Absolument.
Bah oui,
si. Si on veut tourner la chose en dérision, ça peut être ça. Parce que c'est tellement ouvert que le système de soins aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il est facile d'accéder aux soins en France. Et c'est trop souvent synonyme de gratuité. Alors, on pense que le patient vient systématiquement avec l'idée d'avoir une AME ou que ce n'est pas toujours le cas. Oui, certains, parce qu'ils ont des intérêts en France, ils ont de la famille, ils y viennent régulièrement, vont vouloir avoir une AME et ils connaissent très bien le process. Et puis, vous en avez d'autres, ils viennent en France uniquement pour avoir des soins. Peu importe que ça soit payé par l'AME, par l'hôpital, par quoi que ce soit.
Mais pas par eux.
Mais pas par eux, exactement. Mmh. Pour eux, c'est gratuit. D'ailleurs, ils vous le disent très bien. Ici, c'est gratuit. Il y a des réseaux qui se forment avec ou quelqu'un en France qui leur dit pas de problème, en hôpital public, on rentre par les urgences et c'est gratuit.
Alors, je voudrais que vous racontiez, parce que ça, c'est très fort dans votre livre, il y a les interprètes qui sont souvent recrutés sur WhatsApp parce que là, beaucoup ne parlent pas évidemment un mot de français. Mmh. Bon, ça, c'est... Je comprends très bien. Et alors, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous dites qu'on retrouve le même interprète avec des patients différents qui disent « Oui, c'est un ami, j'accompagne l'ami à l'hôpital. »
Oui.
Et ça se passe comment, en fait?
Ils viennent... En fait, il faut... Alors, je vais répondre à votre question juste après. Mais oui. Il faut bien raisonner en se disant... Quel est le moyen d'entrer dans le système de soins français aujourd'hui en France?
Oui, il faut décrire un peu effectivement le parcours.
Voilà, quelle est la porte d'entrée d'un patient dans le système de soins français? Ils rentrent par les urgences. Donc ils arrivent aux urgences et à partir de là, ils vont recevoir des soins plus ou moins courts ou plus ou moins longs.
Parce que l'urgence, on admet tout le monde, évidemment.
Absolument, et là, ça peut entraîner des prises en charge de plusieurs mois à partir d'un service d'urgence. Et donc ces patients-là, sont guidés par des interprètes, enfin qui se disent interprètes, hein, ce sont des petits réseaux organisés ci et là et qui
mais organisés, viennent... absolument organisés.
Oui, enfin organisés individuellement.
Oui, hein,
moi, je parle de ce que j'ai vu, en tout cas ce que j'ai vécu, des petits réseaux organisés individuellement où le patient contacte sur WhatsApp. Une personne, par quel biais, je n'en sais rien. Et cette personne leur dit, moi je m'occupe de tout, c'est un superintendant qui va leur sous-louer une résidence ou les loger dans des appart-hôtels et il prend tout en charge et il leur dit, vous n'aurez rien à payer, excepté évidemment l'interprète, je suppose. Ouais. Il y a fort à parier. Voilà, donc c'est pour ça qu'il nous est même arrivé d'avoir des situations où on avait le patient en face de nous, on lui disait qu'il fallait payer, lui il était plus ou moins prêt à payer et puis finalement il y avait l'interprète à derrière qui dit, non, il ne faut pas payer. Voilà.
C'est pas la peine. Ouais.
Ici c'est gratuit, ils nous l'ont dit, hein. Ici c'est gratuit. Voilà.
Ouais. Alors justement, vous en parlez, Véronique Prudhomme, dans votre livre, on peut cocher toutes les cases de l'AME. Alors, disons, allez, conseillons, exprès, on va faire un peu de provocation, mais conseillons quelqu'un voilà, qui dit, moi, la France, c'est génial, c'est gratuit, on peut se faire soigner, on peut accoucher, etc. Comment il faut faire?
On donne la méthode, là.
Absolument. Donnons la méthode. Ben oui, puisque vous l'avez vécu au cœur du système.
Allez. Alors, la personne... En fait, il y a trois critères d'entrée dans l'AME. Il faut être illégal sur le territoire, ça, on l'a vu. Donc, on l'a vu aussi par quel biais. Il faut avoir une adresse d'hébergement. Donc, ça peut être une simple attestation manuscrite de quelqu'un qui vous héberge, souvent, d'une communauté.
Oui, on ne va pas vérifier, quoi. On dit
un membre de la famille. Il nous faut une adresse, en réalité. Il faut une adresse à l'assurance maladie, parce que je dis nous, mais en réalité, derrière, on envoie un dossier à l'assurance maladie. C'est l'assurance maladie qui monte une...
Bien sûr.
On monte le dossier et c'est elle qui accorde l'AME ou pas. Donc, une adresse de domicile. Donc, ça ne peut pas être... il faut le plus souvent une attestation d'hébergement, ça c'est mieux. Donc c'est une simple attestation manuelle, un manuscrit sur un papier blanc, et une preuve des ressources, enfin en tout cas une attestation de ressources sur les 12 derniers mois, puisque c'est soumis à un plafond de ressources pour une personne, 8 900 € par an, ou 13 400 € pour deux personnes, et ainsi de suite si on a plusieurs...
Il faut une attestation de ressources.
Alors oui, mais l'attestation de ressources, c'est pareil, ça peut être une simple attestation manuscrite de la personne qui atteste ne pas gagner plus de temps depuis 12 mois.
Ah oui, donc j'écris, je ne gagne pas plus de temps, et voilà, donc j'ai droit, d'accord.
Voilà, c'est sur du déclaratif. Alors il nous faut aussi l'identité du patient, et bien évidemment, alors on a la plupart du temps le passeport du patient d'ailleurs, puisque ça permet aussi, il faut pouvoir prouver ses 3 mois de présence sur le territoire français, donc très souvent le passeport nous permet d'être attester de cela.
Date d'entrée, etc.
Exactement. On a le tampon de l'aéroport, on sait à quelle date le patient est rentré, on sait que le visa est périmé, et par conséquent, il coche toutes les cases. Mais il arrive également que vous ayez des patients qui disent avoir perdu leur papier ou s'être fait voler leur papier. Et là encore, une simple attestation suffira. Voilà.
Et ça, c'est une proportion assez grande qu'ils arrivent, on n'a plus de papier du tout, on s'est fait voler les papiers.
Alors, ceux qui disent « ça te fait voler les papiers », à ma connaissance, en tout cas de mon expérience, ce n'est pas le plus fréquent. Non, ce n'est pas le plus fréquent, puisque le passeport est quand même important, justement pour avoir l'identité, il faut quand même avoir un certain nombre d'éléments, et puis finalement, ça ne bloque pas, au contraire, c'est aidant, donc ils l'ont. Sauf s'ils ont un visa encore valable, pour le coup, là, ils ne nous le montreront peut-être pas.
Mais en fait, ce qui est étonnant, vous diriez, Véronique Prudhomme, on va continuer à en parler, vous diriez, en fait, il y a quand même énormément de gens qui viennent de passage, qui sont ce que j'appelle les patients de passage.
Oui, alors, si on regarde les statistiques de l'AME, 46% des patients qui bénéficient de l'AME sont en France depuis moins d'un an. Voilà. Donc 46%, c'est presque la moitié, exactement. Ouais, ouais. Mais alors, il faut bien prendre en considération que là, on parle toujours de l'AME, et d'ailleurs, dans le débat actuel, on ne parle que de l'AME, mais il faut prendre les choses de façon plus globale, en réalité, parce que quand on voit un patient arriver, nous, qu'est-ce que l'on veut, hôpital, c'est avoir un financement en face de cette prise en charge.
Bien sûr.
Je parle sur la partie administrative, en tout cas. Mm-hmm. Chacun est chargé de sa partie. Sur la partie administrative, on va s'assurer de voir qui va payer les soins. Bon. Donc, s'il rentre dans le cadre de l'AME, on va tout faire, nous, hôpitaux français, on va tout faire pour que le patient rentre dans ce cadre de l'AME. Puisque là, on est sûr d'avoir un financement. Donc,
pour nous,
c'est plus facile. Ouais. Vous voyez, on est sûr d'être payé là.
C'est l'assurance médicale qui vous paye.
Exactement. En revanche, si toutefois, il ne rentre pas dans les cases de l'AME ou si on n'a pas les éléments pour pouvoir monter ce dossier, on va facturer ce dossier au patient.
Et c'est là où les difficultés commencent. Véronique Prudhomme, on en parle tout de suite après une petite pause.
Et on reste avec notre invitée Véronique Prudhomme, qui est donc l'auteur de ce livre, La vérité sur l'aide médicale d'État. C'est publié chez Via Social. Elle est l'invitée d'André Berkoff. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio.
Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face.
André Berkoff qui est toujours avec son invité, Véronique Prudhomme. Elle a été chargée pendant 11 ans de la facturation des soins à la direction financière d'un hôpital public. Elle nous présente son livre, La vérité sur l'aide médicale d'État. C'est publié chez Via Social.
Oui, c'est un document exceptionnel parce que justement, c'est la face immergée de l'iceberg. Et juste un mot, on a parlé d'un milliard d'euros, Véronique Prudhomme, et vous, Orantem, vous disiez, c'est peut-être le double.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à bien comprendre, quand un patient rentre par un service d'urgence et qu'il vient se faire soigner, nous, on va se préoccuper, établissement, de voir dans quelle case il va rentrer. Est-ce qu'il va rentrer dans la case de l'AME ou s'il n'y rentre pas, on va lui facturer les soins. Donc, si on lui facture les soins, eh bien, où on va les facturer ces soins ? Dans son adresse temporaire en France, dans son adresse à son pays, très souvent...
S'il est hors AME, quoi.
Ben voilà, c'est un coup d'épée dans l'eau. On envoie une facture à l'étranger, on a zéro, pratiquement aucune chance qu'elle soit de recouvrer cette facture. Par conséquent, on a un nombre de dossiers que l'on ne facture même pas, c'est-à-dire qu'on les appelle les non-facturables parce qu'on ne sait même pas qui les facturer.
Donc,
on sait même
vous abandonnez, quoi.
Donc, ce sont des actes gratuits, on les passe en non-facturables. Ou alors, lorsqu'on les facture, eh bien, on envoie une facture, on fait ce qu'on peut, on essaye, mais on sait très bien que c'est un coup d'épée dans l'eau.
Donc, à votre avis, aujourd'hui, l'AME, les soins, ça monte à 2 milliards d'euros.
Oui, je pense qu'on peut facilement doubler. En tout cas, dans l'établissement que je connais, c'était le double, largement. Donc, je pense qu'on peut facilement doubler, oui. Alors là, du coup, on parle de la prise en charge des étrangers, la prise en charge des soins, des patients étrangers sur le territoire français, plus globalement, et ce qui inclut l'AME. Mais on parle toujours que de l'AME. En réalité, il faut prendre un peu plus de hauteur et voir ça sur un mode beaucoup plus large et de voir en réalité non pas l'AME et les critères d'entrée de l'AME, mais il faut voir quelle est la porte d'entrée de ces patients dans notre système de soins français.
Mais vous avez dit que c'était les urgences.
Et ce sont les urgences, exactement. Oui. C'est la raison pour laquelle réduire les critères d'entrée de l'AME, comme on en entend parler là, ci ou là récemment, ou réduire le panier de soins, c'est-à-dire ce qui serait pris en charge par cette AME, ne fera que reporter la problématique sur les hôpitaux. Parce que du coup, les patients, ils seront quand même là. On les soignera, bien évidemment. Il n'est pas question de les laisser sur le bord de la route. On va les prendre en charge. Et ces patients-là,
ça ne changera rien.
Ça ne changera rien. Mmh. Ou à la marge, ça ne sera qu'un message. Mais à la marge, en réalité, les coûts seront quand même là.
C'est quand ils ont parlé des prothèses mammaires. On ne va plus faire les prothèses mammaires. Vous vous rappelez pour l'AME.
Oui, bon, là, il y a eu une petite confusion des genres sur qu'est-ce qu'on entend par. Enfin, voilà, dans quel cadre on a une prothèse mammaire. Est-ce que c'est dans un cadre esthétique ou est-ce que c'est dans un cadre d'une reconstruction mammaire. Voilà, donc, bon.
Je voudrais que vous avez un exemple, et je crois que c'est intéressant à raconter, enfin même plus que ça, de cette touriste russe. Si vous pouvez raconter ça, Véronique Prudhomme.
Oui, alors c'est une touriste russe qui est venue en France passer des vacances à la montagne dans une station de ski assez réputée et qui a eu un accident, qui s'est retrouvé à être hospitalisé de très peu de temps, mais bon, suffisamment quand même pour avoir une hospitalisation.
Oui.
Et elle a transmis l'adresse d'un chalet dans lequel elle n'avait jamais séjourné. Un chalet qui appartenait à des Français qui vivaient à l'étranger et qui n'étaient pas souvent chez eux. En tout cas, ils venaient en vacances de temps en temps et ils n'avaient jamais loué ce chalet à cette personne. Donc, elle a donné cette adresse. Les propriétaires se sont vus recevoir dans
une facture
puis des relances, et puis, et puis des lettres d'huissier, etc., un recouvrement. Ce qui est la procédure classique, n'étant pas là, ils n'ont pas pu stopper la procédure. Et puis, ils arrivent en vacances au bout de quelques semaines, quelques mois, et ils découvrent un dernier courrier d'huissier les informant d'une saisie imminente.
Voilà, mise en demeure, etc.
Exactement.
Etc.
Voilà. Donc, heureusement, ils ont réussi à tout stopper, mais ça n'a pas été facile pour eux, parce que voilà, cette adresse avait été donnée à l'arrivée de la patiente aux urgences. Voilà.
Et cette touriste russe, on l'a retrouvée?
Non, je pense que non. Après, c'est le Trésor qui se charge de faire du recouvrement et de mener la chaîne de recouvrement. Mais je crains que non. Je crains que non, comme dans 95% des cas. Il faut savoir que les factures envoyées à l'étranger sont recouvertes à 5% seulement. Parce que c'est de l'amiable. 5% de recouvrement à partir
quand
de
les factures à l'étranger, ils sont repartis, donc...
C'est un coup d'épée dans l'eau.
Débrouillez-vous.
C'est un coup d'épée dans l'eau.
Non, mais c'est quand même hallucinant, cette histoire, parce qu'on parle de ce qu'il faut faire, des économies par-ci, des économies par-là, on paye les infirmières, on sait comment on les paye, etc., etc. Et puis là, allez, 2 milliards, vous le dites vous-même, et puis voilà, alors on veut bien soigner, mais enfin quand même. Et vous dites, juste un mot, vous parlez de certains patients de pays du Golfe qui sont dans les palaces et qui viennent se faire soigner gratuitement.
Oui.
Ça, c'est quand
alors,
même
c'est pas
assez
pour eux,
énorme.
Généralement, c'est pour leur personnel. Eux vont en clinique.
Eux payent les cliniques.
Voilà, eux payent les cliniques et ils envoient leur personnel dans le système public. Et évidemment, c'est toujours trop cher. Voilà, c'est toujours trop cher. Donc, si on peut ne pas payer, on ne paye pas. Parce qu'on sait qu'en France, on peut ne pas payer. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on sait qu'en France, c'est facile, c'est gratuit. La facilité d'accès aux soins en France est synonyme de gratuité. Et c'est là qu'il y a un vrai problème.
Et vous dites juste Véronique Brudin, que quelquefois, je ne dirais pas une complicité, mais il y a le personnel hospitalier qui n'a pas du tout envie, ou les médecins qui n'ont pas envie du tout de collaborer au recouvrement. Qui disent, attendez, ça, ce n'est pas notre boulot, ce n'est pas notre métier.
Oui, chacun son métier. Alors, il y a une certaine prise de conscience progressivement qui commence à arriver chez certains parce qu'ils se rendent compte, parce qu'ils s'intéressent à ces questions-là. Mais s'agissant d'argent public, ça n'intéresse pas tout le monde, c'est certain.
Mais l'argent public, c'est eux.
C'est eux. Et ils ne font pas le lien plus souvent entre du personnel qui manque sur le terrain et puis de l'argent qui part par ailleurs.
C'est eux, c'est nous.
C'est eux, c'est nous, exactement. Et puis surtout, c'est du personnel en moins, c'est du matériel en moins. Il faut le savoir que si l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'hôpital, on ne peut pas investir derrière. On ne peut pas employer, on ne peut pas. Voilà, il y a un simple raisonnement à tenir. Mais il y a une forme d'inertie, puis il y a une forme de fatalité aussi. Si c'est comme ça, c'est que ça ne peut pas être autrement et que les choses sont ainsi faites.
Et bien,
c'est pas nous qui allons les changer. On l'accepte, ou malgré soi parfois. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est ainsi fait.
C'est cette acceptation de ce réel qui est effectivement... On le voit dans divers domaines. C'est pas seulement
exactement, là. C'est pas que là. Mais effectivement, là, c'est très présent. Alors certains, c'est très personne dépendante en fait. Certains se préoccupent largement de cette question-là. Médecins, soignants. Mais c'est très individuel, c'est une démarche individuelle et qui n'est pas suffisamment répandue à l'hôpital pour que ça fonctionne bien.
Alors Véronique Prudhomme, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution?
Alors,
parce que c'est quand même cette espèce de coulage hallucinant. On n'a pas parlé juste un mot, même si elles peuvent l'avoir, des femmes qui viennent effectivement accoucher gratuitement en France.
Oui. Vous en
juste
avez
un
certain
là-dessus.
Nombre. Alors, vous avez un certain nombre de patientes qui viennent, de femmes hein, qui viennent à 7-8 mois de grossesse. Accoucher en France.
Oui, c'est ça. Dès qu'elles sont prêtes à accoucher, elles arrivent.
Oui, parfois un petit peu avant, parce que justement, ça permettra aussi...
Les 3 mois.
Voilà, d'avoir les 3 mois. Ou parce que la grossesse est un petit peu compliquée, donc on préfère venir se faire soigner en France. Alors, en soi, ça n'a rien... Enfin, ça peut paraître légitime de vouloir avoir des soins de qualité. Là, on peut pas reprocher ça.
Mais
là où ça devient un problème, c'est lorsque vous voyez ces personnes se payer des appart-hôtels, des locations, et pas forcément... les plus lointaines ou les moins chères, et que par ailleurs, quand on leur demande de régler les soins, là, il n'y a plus personne.
Ça.
Voilà.
C'est la
problématique, c'est que, encore une fois, il est légitime de soigner des personnes qui en ont besoin. En revanche, savoir qui va payer, là, c'est une autre question. Et le problème, c'est que c'est trop souvent la France qui se retrouve à prendre en charge ses patients, ses femmes enceintes, que ce soit par le biais de l'AME comme par le biais des créances irrécouvrables. Voilà, il faut bien savoir que c'est un système de vases communicants.
Absolument.
Ce qui n'est pas dans une catégorie se retrouve dans l'autre.
Si on ne paye pas là, eh bien
ça se retrouve ailleurs. Voilà, donc vous avez effectivement, et le problème aussi c'est que les compagnies aériennes n'ont pas de réglementation qui imposerait, alors elle demande simplement un certificat médical permettant l'accès à un avion d'une femme enceinte.
Et on ne peut pas leur empêcher d'entrer, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Véronique Audier ?
Alors il y a un certain nombre de choses à faire. Hein. Il faut verrouiller en amont et en aval de ce process de l'AME, parce que l'AME seule, si on veut traiter cette problématique par l'AME seule, ça ne suffira pas. Il faut trouver des solutions qui soient à la fois humaines et efficaces, parce qu'encore une fois, réduire le panier de soins, ça suppose quoi ? Ça veut dire qu'on laisse soit des patients qu'on ne soigne pas, soit des patients à qui on va facturer des soins dont on a vu juste avant que ça va aboutir à une
crosse.
Donc concrètement, aujourd'hui les patients pour venir en France et lorsqu'ils ont besoin d'un visa, ils doivent souscrire une assurance santé à hauteur de 30 000 euros. Le problème c'est que cette assurance santé aujourd'hui elle couvre pratiquement rien, très peu de choses, sauf l'accident, sauf vraiment ce qui était vraiment imprévu.
Elle n'est pas étendue à assez de domaines.
Non, du tout. Et en plus, elle est à peine vérifiée parce que très souvent, elle ne couvre pas toute la durée du visa. En tout cas, toute la durée de présence du patient en France.
Donc ça c'est une chose.
Donc déjà, il faut que ces assurances, mais c'est vraiment la chose principale, c'est-à-dire qu'il faut que ces assurances soient revues, soient...
couvrent absolument tout.
Exactement,
que
ce soit une vraie couverture d'assurance, avec une durée plus longue que celle qui est demandée actuellement.
Et sinon, pas de visa.
Alors, sinon, pas de visa, il faut responsabiliser l'hébergeant. Hein, pour les personnes qui viennent chez un hébergeant, il faut les responsabiliser.
Que l'hébergeant soit co-responsable.
Exactement. Hein, la personne qui héberge un étranger qui vient en France doit, une fois que l'assurance ne couvre plus, être responsable des soins éventuellement.
Oui, parce qu'il y a des soins après, hein, post-opération ou post.
Exactement, et puis post-visa. Donc si l'assurance couvre, admettons un patient vient 15 jours, l'assurance, on va demander à ce qu'elle couvre 2 mois, mais si le patient reste 6, il faut que ce soit l'hébergeant qui prenne en charge le reste de la présence.
D'accord.
On a aujourd'hui un certain nombre de prises en charge aussi d'ambassade. Pour des patients qui viennent pour des soins programmés, là. Ça peut être de l'esthétique, ça peut être des cancers, ça peut être... Ces prises en charge-là ne prennent en charge que un soin précis dans un hôpital ou dans une clinique précise. Ce qui fait que si ces patients-là ont un problème de santé durant leur séjour, ils viennent aux urgences d'un hôpital et là, la prise en charge ne couvre pas. Donc, il faut aussi qu'on s'organise avec les ambassades, avec les consulats, de façon à ce que les prises en charge couvrent également les soins non programmés.
Les soins de l'hôpital public, etc.
Exactement.
D'accord.
Et puis, il faut responsabiliser l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire soins facturation, soins administratifs. Il faut que chacun soit partie prenante à cette chaîne, de façon à ce qu'on s'organise. Encore une fois, il n'est pas question de ne pas soigner les gens, il n'est pas question de laisser les personnes nécessiteuses sur le bord de la route. Par contre, il est question que les personnes qui peuvent payer tout ou partie des soins ne laissent pas ces factures à la charge de l'État français.
Ouais, et c'est pour ça que c'est très important. Effectivement, vous avez fait un travail vraiment remarquable et je veux dire utile de service public, il faut le dire.
Merci.
Et je crois que en fait, on voit très bien un peu partout, il y a des coulages, il y a des choses qui passent et c'est pas possible de laisser cela. En tout cas, merci de votre travail, Véronique Prudhomme.
Merci à vous.
Et je rappelle pour tous ceux qui auraient la curiosité d'aller justement éplucher ce travail de longue haleine, vous pouvez vous procurer ce livre, La vérité sur l'aide médicale d'État, c'est publié chez Via Social. Merci André Bercoff, à lundi prochain. Dans tous vos états, bon week-end à vous. La journée continue à l'écoute de Sud Radio. C'est le jour de la sortie de l'album posthume de Johnny Hallyday. Du coup, Jacques Pessis pour Les Clés d'une Vie reçoit un proche du chanteur de la légende. Il s'agit de Pierre Billon. Belle journée à vous sur Sud Radio.